Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi
Ainsi
soit-il.
Mes yeux sont constamment fixés sur le Seigneur, car c'est lui qui dégage mes pieds du filet. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le troisième dimanche de Carême. Nous entrons toujours plus avant, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le désert du Carême. À mesure que nous mortifions nos corps et nos volontés, et que nous nourrissons du pain de la parole de Dieu, nos yeux s'ouvrent, et comme Jonatas lors de la guerre contre les Philistins, eh bien, un miel spirituel nous permet de poursuivre le combat contre nous-mêmes, contre la chair et contre le diable. Aujourd'hui, les textes de la messe parlent de ce miel et nous y reviendrons. Alors nous avons plusieurs choses à voir avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons voir dans les textes de la messe d'aujourd'hui qui sont extrêmement beaux, comme ceux de toutes les messes, mais enfin, ils sont particulièrement beaux aujourd'hui. Nous allons dire deux mots sur le règne de la concupiscence, puis nous allons aussi surtout dire comment l'Église nous donne les armes pour la vaincre. Et nous verrons aussi qu'elle nous donne une méthode pour la maîtriser sur le long terme. Ensuite, nous verrons comment faire la guerre aux démons, quel est l'ordre de bataille que nous devons adopter pour triompher de lui. Et enfin, nous terminerons par voir un certain nombre de choses sur l'ordonnation de la vie chrétienne afin de ne pas retomber, qui est l'unique moyen pour accomplir des œuvres méritoires. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
L'évangile d'aujourd'hui est extrêmement riche parce qu'il y a un certain nombre d'enseignements assez différents qui nous sont donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus chassait un démon et ce démon était muet. Et lorsqu'il eut chassé le démon, le muet parla et les foules furent dans l'admiration. Un auteur nous dit que le démon ferme la bouche à ceux qui l'empêchent de louer Dieu, de le prier, de confesser leurs péchés, de rendre témoignage à la vérité, etc. La bouche est le plus souvent fermée à ses devoirs parce que le cœur est fermé à Dieu et à sa parole. Le démon muet, ce n'est pas que le démon lui-même était muet, parce que ça n'aura pas de sens de dire cela, mais c'est un démon de mutisme. C'est un démon qui rendait muet celui qu'il possédait. Et tous les pères sont d'accord pour dire que dans ce malheureux qui était possédé par ce démon-là, représente, comme les lépreux, comme les aveugles, comme les boiteux dans d'autres passages de l'Écriture sainte, ce malheureux possédé muet représente un aspect de l'homme, de l'homme déchu bien sûr, mais aussi du chrétien qui se laisse aller, si j'ose dire. C'est qu'il est rendu muet par le démon, de telle sorte que, comme nous l'avons vu, il ne loue pas Dieu, il ne le prie pas, il ne confesse pas ses péchés, il ne rend pas témoignage à la vérité. C'est un démon muet, c'est un démon de mutisme. Et bien souvent, malheureusement, mes très chers frères, nous devons reconnaître que dans notre vie chrétienne, nous sommes parfois en proie. Nous sommes bien souvent en proie à ce démon. Nous devrions dire quelque chose de la part de Dieu, nous ne le disons pas. Nous devrions confesser nos péchés, nous ne le faisons pas. Nous devrions louer Dieu à un moment où nous devrions nous montrer particulièrement reconnaissants et nous ne le faisons pas. Ce démon est un démon muet, c'est un démon qui rend muet et il n'a de prise en nous que dans la mesure où notre cœur est fermé à Dieu et à sa parole. Alors il peut être fermé à plusieurs degrés, il peut être absolument fermé, comme est fermé le cœur d'un païen, d'un mécréant absolu. Il peut être relativement fermé, dans le sens où, dans le fond, nous savons que nous devrions nous nourrir de la parole de Dieu, nous savons que nous devrions prier, mais nous ne le faisons pas. Ce n'est pas la bonne volonté qui nous manque, dans un certain sens. En tout cas, ce n'est pas le désir qui nous manque, ce n'est pas la velléité qui nous manque, c'est la volonté efficace. Et donc, du coup, la chair ayant des désirs contraires à ceux de l'esprit, nous n'obéissons pas à l'esprit en nous, l'esprit de Dieu, et nous suivons la chair, de telle sorte que le démon de mutisme nous domine et nous rend muets. Le mutisme, d'une façon générale, c'est l'état de l'homme livré à lui-même, qui est content de lui-même. Ce mutisme, nous disent les commentateurs, vient du règne de la concupiscence. Un auteur nous dit, sans la cupidité, sans la concupiscence, le démon est impuissant. Évidemment, il était totalement impuissant face à notre Seigneur, c'est pour cela que notre Seigneur dit « il n'a rien en moi », parce que notre Seigneur était totalement pur, totalement la concupiscence était totalement absente de lui. Évidemment, c'était l'homme-Dieu, c'est lui qui donne la mesure et qui nous donne le ton. Maintenant, il se trouve que pour nous, malheureusement, le démon souvent triomphe de nous, parce que nous avons cette concupiscence qui nous empêche de parler. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que si la concupiscence nous empêche de parler, et c'est encourageant, vous allez voir mes très chers frères, si la concupiscence nous empêche d'ouvrir notre bouche comme nous le devrions, en tout cas pour Dieu, c'est qu'elle sait que dans la mesure où nous parlons, elle commence à diminuer. Parler ici, c'est, comme nous l'avons dit, louer Dieu, prier, confesser ses péchés, rendre témoignage à la vérité, toutes choses qui sont du devoir du chrétien. Il ne s'agit pas simplement d'être dans tel ou tel état, c'est les devoirs généraux du chrétien. Après, ça se polarise et se particularise dans tel ou tel devoir, avec plus ou moins de précision, mais tout chrétien doit louer Dieu, tout chrétien doit prier, tout chrétien doit confesser ses péchés, tout chrétien doit rendre témoignage à la vérité quand l'occasion se présente. Donc nous voyons que plus nous nous aimons nous-mêmes, et moins nous parlons. Donc plus nous faisons l'effort de nous plier aux devoirs généraux du christianisme qui sont les nôtres par notre baptême, plus aussi, d'une certaine manière, l'impact sur notre concupiscence sera vrai, sera efficace, sera réel. Souvent nous nous disons, je fais l'expérience malheureusement de la concupiscence en moi, mais comment m'attaquer à elle? Dans le fond, elle se confond avec moi, et c'est vrai. C'est pour cela que nous devons, pour vaincre la concupiscence, nous détourner de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas combattre la concupiscence et la vaincre si nous ne nous détournons pas de nous-mêmes. Et nous détourner de nous-mêmes, ce n'est pas nous jeter dans les autres, c'est nous jeter en Dieu. Sans la cupidité, le démon est impuissant à nous nuire et à dominer sur nous. C'est donc par une plus grande charité que la concupiscence est surmontée. Si j'ai un degré de concupiscence quelconque en moi, c'est en ayant un degré plus grand de charité que je le viderai, que je viderai mon cœur de cette concupiscence. Pensez à un verre, par exemple, si un verre est rempli à moitié de quelque chose, que faire pour chasser le liquide qui est dedans? Il faut verser au moins la même quantité de liquide, mais souvent, comme le verre n'est pas entièrement rempli, il faut verser plus d'un autre liquide pour que tout le liquide qui était là avant parte. Il en va de même pour la charité. Si nous prenons la mesure de notre concupiscence, elle nous donne une idée de la mesure de la charité dont nous avons besoin. Et c'est là que les paroles très connues de Saint Bernard, que tout le monde cite, mais qui sont très vraies, la mesure de l'amour de Dieu, c'est d'être sans mesure. Eh bien, notre concupiscence est, en quelque sorte, en tout cas, du point de vue de notre expérience, sans mesure. C'est-à-dire qu'elle se régénère constamment, elle se renouvelle constamment, on la retrouve partout. Il faut donc, enfin, nous savons qu'elle a une mesure, elle est la mesure de l'être humain, puisque, Dieu merci, nous sommes finis. Il nous faut donc un amour de Dieu qui surpasse en mesure, en quantité, la concupiscence, de telle sorte qu'elle puisse être chassée. C'est pour cela que notre Seigneur dit dans l'Évangile, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne recueille pas avec moi dissipe. » Nous avons beau nous battre contre tel ou tel effet de la concupiscence en nous, en fait, mes très chers frères, que nous dit notre Père Saint Augustin, il nous dit que nous combattons contre la concupiscence, ou plutôt contre les effets de la concupiscence, comme les païens peuvent le faire. Comme nous le disons souvent, il ne s'agit pas de s'imaginer que parce que les païens sont totalement sous la puissance du démon muet, sous la concupiscence, qu'ils font absolument toujours des choses mauvaises. C'est très rare que des païens, que des mécréants fassent des choses qui soient vraiment très mauvaises au point que même les hommes s'en aperçoivent. Il y a bien sûr des gens qui assassinent leur prochain, il y a bien sûr des truands, etc. Mais enfin, par rapport à la population globale, il y en a peu, heureusement. Il y en a trop, mais il y en a peu. Il y en a peu. Quelle est la différence entre le chrétien et la masse des gens mécréants qui ne font pas tout le mal qu'ils pourraient faire? Eh bien, c'est que le chrétien peut faire une action méritoire du fait de ne pas pécher, de ne pas céder à la concupiscence. Tandis que lorsque le mécréant ne cède pas à la concupiscence, c'est parce que ou bien il a honte, ou bien il est orgueilleux, ou bien il remplace un péché par un autre. Combien de grands criminels, de gens extrêmement sadiques, extrêmement malades, des bandits de grand chemin, des gens qui auraient assassiné leur prochain, qui auraient provoqué des hécatombes, échappent totalement à la prison et même sont loués, parce qu'ils ne le font pas dans la vraie vie, mais ils sont producteurs de cinéma. Ils le mettent en film, en œuvre d'art. Et donc, ils déploient toute leur corruption intérieure dans les scénarios de leurs films qui sont atroces, mais du point de vue des hommes, ils ne commettent aucun crime. Alors que le malheureux qui n'a pas l'intelligence artistique assez poussée, lui, il va commettre le crime lui-même, il va être attrapé par la police et il va être exécuté. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas su, en quelque sorte, sublimer les désirs de sa concupiscence. Mais dans le fond, celui qui tue son prochain et celui qui montre un film très beau dans lequel on tue son prochain, mais ils font la même chose du point de vue de Dieu. Ils font quelque chose de mal, sauf que c'est à un niveau différent. Le chrétien ne fait ni l'un ni l'autre. Le chrétien, bien sûr, ne va pas commettre des péchés concrets, si j'ose dire, mais il ne va pas non plus dissimuler ou changer ses péchés concrets pour des choses qui sont plus abstraites et peut-être plus acceptables. Voyez? Eh bien, le chrétien, lui, pratique la charité, qui est le contraire de la concupiscence, ou plutôt la concupiscence est le contraire de la charité. Mais enfin, mettons, vu de notre de point de vue d'homme déchu, nous commençons par faire l'expérience de la concupiscence, et ensuite celle de la charité, si Dieu veut. Donc, il nous faut combattre les tendances de la concupiscence, non pas en les détournant, en les déviant, en les sublimant, mais par la charité. Alors, vous allez dire, évidemment, je vous vois venir, je ne lis pas dans vos cœurs, mais enfin, j'imagine quand même, vous dites, oui, mais tout ceci est très clair théoriquement, mais comment? Comment faire concrètement? Eh bien, mes très chers frères, tout est fourni, comme sur une table, par notre mère, la Sainte Mère, l'Église. Écoutez l'offertoire. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils mettent la joie au cœur. Ses jugements, plus doux que le miel des rayons, que votre serviteur et votre serviteur de les garder fidèlement. Mais quel est le rapport? Vous parlez des commandements de Dieu, vous parliez de charité tout à l'heure. La charité ne peut se manifester que par les œuvres de la foi. Sans les œuvres, la foi est morte. Comme le corps est mort, sans l'âme, sans les œuvres, la foi est morte. Eh bien, de même que les œuvres de la foi se manifestent par l'obéissance, consiste dans l'obéissance aux commandements de Dieu, de même la charité, qui dure plus longtemps que la foi, eh bien, la charité est de pratiquer tous les commandements de Dieu pour l'amour de Dieu, ce qui se manifeste et se vérifie par l'amour concret que nous aurons pour le prochain. Donc, nous sommes certains d'agir selon la charité, mes très chers frères, nous ne sommes certains d'agir selon la charité que dans la mesure où nous gardons réellement les commandements de Dieu et en plus que nous mettons notre joie en eux. Vous voyez, nous avons dit qu'on ne peut combattre efficacement la charité que dans la mesure où l'on a une charité plus grande. Comment savoir si on a une charité grande? En obéissant au commandement de Dieu. Alors nous allons dire, oui, je voudrais bien, c'est mon désir d'obéir au commandement de Dieu, je le fais quand même quelquefois, mais souvent c'est tellement difficile que je ne le fais pas. Eh bien, au moins nous sommes capables de dire quelque chose. C'est que la charité que nous avons est plus faible, plus petite, si j'ose dire, que la concupiscence. Vous allez dire, c'est décourageant, parce que les commandements de Dieu sont difficiles. Les commandements de Dieu sont difficiles, mais en même temps, ils ne sont pas impossibles à garder. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Bon, c'est difficile, mais en même temps, n'est-ce pas la vie même du chrétien? Tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de mensonges. Ce ne sont pas des choses qui sont totalement au-delà de nos capacités. Alors on va dire, mais des fois je suis tenté de telle manière que cela me semble totalement impossible. Eh bien, il faut savoir, mes très chers frères, c'est là où il faut bien connaître l'Écriture sainte et il faut s'en nourrir, il faut savoir qu'avec toute tentation, Dieu donne aussi le moyen de s'en sortir. Il ne faut jamais dire « Dieu me tente », dit saint Jacques, mais chacun est amorcé par sa propre concupiscence. Vous voyez? Donc, si nous disons qu'il y a certains péchés, certaines tentations plus précisément, qui sont trop fortes et que nous n'avons pas d'autre possibilité que d'y céder, Ou bien nous accusons Dieu de ne pas nous aider et nous disons que sa grâce n'est pas pour nous, ce qui est une absurdité, ou bien nous sommes malhonnêtes. Et il vaut mieux être malhonnête, reconnaître que nous sommes malhonnêtes, plutôt que de reconnaître que Dieu nous veut du mal. Parce que dans le premier cas, c'est une constatation qui peut s'améliorer, et dans le deuxième cas, c'est un blasphème. Dieu nous veut du bien puisqu'il nous a fait donner le baptême. Il a fait que son Fils unique, répande son sang pour nous, pour notre salut. Donc comment est-ce que Dieu peut-il manifester de façon plus flagrante son amour pour nous ? Comment pouvons-nous, après des marques si grandes d'amour de Dieu, ne pas nous montrer désireux, dans la volonté et dans les faits, d'aimer ce Dieu qui nous aime tant ? Donc voyez, mes très chers frères, comment connaître le degré de notre charité ? C'est lorsque nous gardons réellement les commandements de Dieu. Alors, vous allez dire, oui, mais regardez le pharisien, il gardait un grand nombre de commandements de Dieu et ça provoquait l'orgueil. Nous y reviendrons dans un instant. Il faut donc, pour savoir quelle est la mesure de charité que nous avons en nous, il faut regarder simplement les efforts que nous faisons pour mettre réellement en œuvre les commandements de Dieu. Pas simplement théoriquement ou volitivement, si j'ose dire, réellement. Donc, pour mettre réellement en œuvre les commandements de Dieu, il faut exclure d'abord tout ce qui s'y oppose. Et quand nous aurons fait ce tri, lorsque nous n'aurons plus dans notre vie que des choses que des actions qui sont compatibles avec les commandements de Dieu, alors il faut obéir aux commandements de Dieu de tout notre cœur. L'Église, ici encore, dans l'introïte que nous avons lu tout à l'heure, nous donne la méthode pour pratiquer, disons, en amont de la pratique des commandements. Elle nous dit « Mes yeux sont constamment fixés sur le Seigneur. » Mes yeux sont constamment fixés sur le Seigneur. Si nous ne sommes pas constamment en train de méditer l'Écriture sainte, si nous ne sommes pas constamment en train de nous en nourrir, si nous ne sommes pas constamment en train d'y acquiescer, parce que évidemment on pourrait lire l'Écriture sainte tout en trouvant que l'Écriture sainte est remplie de toutes sortes d'absurdités, de choses incompréhensibles et d'obscurité, voire de monstruosité. Évidemment, ça c'est lire l'Écriture sainte pour dire des blasphèmes. Il y en a beaucoup qui blasphèment aujourd'hui en disant, certes, Marcion était un hérétique, mais enfin quand on lit l'Ancien Testament, on comprend. Vous lisez le Nouveau Testament, vous pouvez tout aussi bien penser que Dieu est Dieu. Pensez à Ananie et Saphir, par exemple. Lorsqu'ils viennent, ils mentent à Saint-Pierre dans une chose qu'ils auraient très bien pu régler. Ils auraient très bien pu dire, nous avons vendu notre champ, nous donnons une partie à l'Église et une partie pour nous. Ils ont dit, nous donnons tout. Saint-Pierre a dit, pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit ? Ils sont morts foudroyés sur place. Et on voit encore d'autres images, on voit notre Seigneur qui maudit le figuier qui ne lui avait pas donné de figue au moment où le Christ le voulait. Voilà des choses qui sont tout à fait dignes de l'Ancien Testament, si j'ose dire. Alors arrêtons de blasphémer, soumettons-nous à la parole de Dieu, laissons-nous être imprégnés par elle, de telle sorte que nous puissions avoir la mentalité de Dieu. Car, nous allons y venir, il nous faut imiter notre Père Céleste comme des enfants bien-aimés. Comment imiter notre Père Céleste si nous ne sommes pas des enfants qui l'aiment par-dessus tout ? Si nous sommes des blasphémateurs, si nous sommes des chrétiens libéraux, si nous sommes des gens qui, à la première occasion, allons déblatérer contre l'Écriture sainte, faisons très attention, mes très chers frères. Mes yeux sont constamment fixés sur le Seigneur. Nous avons compris qu'il ne s'agit pas des yeux de la chair ou de l'intelligence pour critiquer, il s'agit les yeux de l'enfant sur son Père. Il regarde son Père, et tout ce que fait son Père est un modèle. Tout ce que fait son Père est rassurant. Tout ce que fait son Père, il sait qu'il ne peut en sortir que du bien. Voilà comment nous regardons nos Pères et comment nous regardons notre Dieu. Mes yeux sont constamment fixés sur le Seigneur. Vous voyez ? Vous allez dire, comment faire pour être un bon chrétien et puis pour aimer Dieu et puis pour observer ses commandements ? En ayant les yeux constamment fixés sur eux. Si je détourne mes yeux pour ne pas regarder les commandements, apprendre et m'imprégner des commandements de Dieu, comment est-ce que je vais, le moment venu, les mettre en pratique spontanément avec l'aide de Dieu ? Même avec toute l'aide de la grâce, avec toute la présence du Saint-Esprit que Dieu est capable de me donner, comment est-ce que je vais obéir aux commandements de Dieu si je les ignore, si je les ai oubliés et si je les méprise ? Il nous faut donc une très grande concentration de notre regard intérieur, mes très chers frères. Mes yeux sont constamment fixés sur le Seigneur. Oculi mei semper ad Dominum. Voilà comment nous devons nous comporter. Alors, ce verset est très intéressant puisqu'il dit « Mes yeux sont constamment fixés sur le Seigneur, car c'est lui qui dégage mes pieds du filet. » Il faut apprendre à écouter la parole de Dieu, mes très chers frères. En fait, cette parole est totalement surnaturelle. Si elle était en quelque sorte d'ordre naturel, elle serait une absurdité. C'est un petit peu comme ces gens qui ont les yeux constamment fixés sur leur téléphone portable et qui traversent les routes et se font écraser. On pourrait dire, on leur dit à ces gens-là, éteignez votre téléphone et puis regardez où vous mettez les pieds. Il n'en va pas de même pour la vie chrétienne. Nos yeux sont constamment fixés sur le Seigneur et c'est lui-même qui dégage nos pieds du filet. Si nous voulons éviter les filets du diable, nous ne devons pas être constamment en train de regarder où il les aura probablement cachés. Il nous faut regarder constamment à Dieu. Alors évidemment, notre nature de moderne se révolte et nous nous disons qu'il faut quand même s'informer. Mes très chers frères, quand vous sauriez tout et tout sur les Illuminati, quand vous sauriez tout et tout sur les turpitudes du gender, quand vous sauriez tout, surtout sur les abominations de l'économie souterraine, etc., à quoi cela vous servirait-il ? Nous sommes incapables de nous sortir de ces pièges, des pièges tendus par nos ennemis, si nous n'avons pas notre regard constamment fixé sur Dieu. Donc vous allez dire, mais de temps en temps, il faut s'informer, et puis après, il faut constamment. Semper. Oculi mei semper. Il ne dit pas, mes yeux sont majoritairement fixés sur le Seigneur, mes yeux sont en bonne partie du temps fixés sur le Seigneur, mes yeux sont souvent sur... Semper. Semper, c'est toujours. Vous voyez ? Toujours, 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 sachant que si nos yeux sont constamment, avec une grande concentration, avec une grande fixation, tourné vers le Seigneur, lui-même ôtera tous les pièges de dessous nos pas. Alors évidemment, vous allez dire, mais n'est-ce pas de la témérité ? C'est vraiment un comble. La témérité, c'est de se faire trop confiance à soi. Ce n'est pas de faire trop confiance à Dieu. Alors, évidemment, on peut être téméraire dans une fausse confiance en Dieu, jette-toi du haut du temple, etc. Bien entendu, bien entendu. Mais... Vous voyez, il ne faut pas être plus, si on veut dire, plus chrétien ou plus sage que Dieu. Dieu nous donne ici une clé. Il nous dit, ayez les yeux constamment fixés sur moi, et c'est moi qui délivrerai vos pieds des pièges du démon. Il ne dit pas, regardez un petit peu comme vous pouvez, renseignez-vous, et puis de temps en temps, jetez un regard vers moi, parce que ça, j'ai quand même quelque chose à vous dire de temps en temps, moi aussi, je suis une source d'information. Non, lui nous demande une constante fixation, et, moyennant cela, c'est lui-même qui dégage nos pieds du filet. Si nous voulons éviter les pièges du diable, si nous voulons éviter tous ces filets dans lesquels que le diable jette sur notre route, eh bien, mes très chers frères, fixons nos yeux sur le Seigneur dans sa sainte parole, imprégnons-nous de ses commandements et pratiquons-les de tout notre cœur. Allons un peu plus loin maintenant. Parce que ce n'est pas tout. Ça, c'est le béaba, c'est la base, c'est le fondement. C'est le contraire du fondement sablonneux. C'est le fondement de pierre. Levez-vous, Seigneur, nous dit le graduel, que le mortel ne prévale pas. Exsurge domine non prévaleat homo. Que l'homme ne prévale pas. Alors, dans le contexte du psaume, bien sûr, c'est les ennemis de David qui... David demande... à Dieu qu'il ne prévale pas sur lui. C'est vrai, mais David, c'est la figure du Messie, et le Messie, c'est notre chef, et nous sommes son corps. Donc, lorsque nous prions à Dieu, « Levez-vous, Seigneur, que le mortel, que l'homme ne prévale pas, que l'humain ne prévale pas, sachant que l'homme, c'est moi, c'est le moi. » Ici, l'homme, c'est le moi. L'humain, c'est ce qui est opposé à Dieu, justement. Et l'Église nous fait toujours prier contre nous-mêmes, mes très chers frères. C'est pour cela qu'elle nous aide puissamment et qu'elle nous donne la possibilité de vaincre totalement la concupiscence, de la maîtriser absolument et de la fouler aux pieds, comme le dragon. L'Église nous fait prier contre nous-mêmes. Voilà pourquoi notre Seigneur, je le répète, dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne recueille pas avec moi dissipe. » On ne peut pas, mes très chers frères, être pour la tradition. On ne peut pas être pour la religion. On ne peut pas être pour l'ordre naturel si l'on n'agit pas par la charité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils sont des martyrs parce que Facebook les censure leurs posts, si vous me permettez, je mets des guillemets à tout cela, parce qu'ils ont dit certaines vérités qui dérangent, et donc du coup, alors on leur supprime cela, on leur enlève leurs petits pouces bleus, on leur enlève leurs abonnés, que sais-je, et ils s'imaginent être à l'égal des saints Athanase, etc. Mes très chers frères, ce n'est pas cela le christianisme, c'est vraiment se moquer du monde. Parce que s'il y a un martyr pas cher, c'est vraiment quand on se fait supprimer son compte, et que, on va dire, des fois il y a des gens qui vont en prison. Saint Pierre nous prévient, si nous souffrons à cause de notre propre bêtise, il n'y a rien de glorieux à cela. Si je souffre parce que j'ai mis en cause telle ou telle chose historiquement, quel est le lien avec la religion? Alors vous allez dire indirectement, la religion est concernée. Et directement, non. Alors, la religion n'est pas concernée. Vous voyez, mes très chers frères, on ne peut pas être pour la tradition, on ne peut pas être les défenseurs de la tradition. Il faut être ceux qui pratiquent la tradition. On ne peut pas être les défenseurs de la religion, il faut être ceux qui s'insèrent dans l'ordre ecclésiastique. On ne peut pas être les défenseurs de l'ordre naturel, il faut être ceux qui vivent selon l'ordre naturel. Il y a des gens qui vous défendent l'ordre naturel, on dirait que ce sont des monstres. Ils sont là à me parler que de la vocation de la femme, vocation de l'homme, vocation de ceci, cela. Et qu'est-ce que eux, ils agissent, mais totalement en dehors de toute vocation. Vous voyez, mes très chers frères, il faut être dans l'ordre. Et quand on est dans l'ordre, quand on fixe Dieu, et que Dieu lui-même retire le filet de sous nos pieds, et que l'on pratique avec une très grande joie les commandements de Dieu, alors on est une prédication, on est un sermon à son prochain par soi-même, et non pas par sa bouche ou par son œuvre. Et ce n'est pas qu'on fait exprès, mais c'est le cas. C'est le cas. Nos bonnes œuvres luisent devant les hommes, et ils en rendront gloire à Dieu au jour de sa visite. Qui rend gloire à Dieu pour tel ou tel article plus ou moins bien fait, pour tel ou tel livre, tel ou tel opuscule, etc. Qui rend gloire à Dieu? Ça rend plutôt l'homme imbu de lui-même en disant « Ah bah oui, je m'en doutais bien, je pense bien que l'ordre naturel est quelque chose de bien ». Pratiquons, pratiquons au lieu de parler, mes très chers frères. Tout ce bavardage n'est que l'effet du démon du mutisme. Vous voyez, tout le bavardage des militants de tous ordres, ce n'est que l'extrême mutisme imposé par le démon. Ils disent, mais ils ne disent rien, parce que ça porte à faux, ou alors ils disent des choses, et comme ils ne devraient pas les dire, elles font exactement l'effet inverse. Ne nous laissons pas fermer la bouche par un démon qui nous rend bavards alors que nous devrions mettre en pratique les commandements de Dieu de tout notre cœur et y trouver beaucoup plus de joie que dans quoi que ce soit d'autre. La communion nous dit ceci, le passereau trouve une maison et l'hirondelle un nid pour y déposer ses petits auprès de vos autels, Seigneur des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans votre maison, ils vous loueront à jamais. Si nous aimons Dieu, si notre charité est plus grande que notre concupiscence, avec l'aide de Dieu, si nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur, si nous trouvons tous nos délices dans l'obéissance exclusive à la loi de Dieu, alors nous habiterons, mes très chers frères, dans la maison du Seigneur pour toujours, et nous le louerons pour toujours. Vous voyez, heureux ceux qui habitent dans votre maison, et donc par conséquent, malheureux ceux qui habitent ailleurs. Que l'homme ne prévale pas. C'est le fond de l'oraison, qui est l'oraison d'aujourd'hui, l'oraison collecte, qui est une toute petite oraison, très simple. Elle est tellement simple qu'elle pourrait passer inaperçue. On dirait une petite oraison qui est là parce que le liturgiste romain n'avait pas beaucoup d'inspiration ce jour-là. Au contraire, mes très chers frères, c'est une perle. Dieu Tout-Puissant, écoutez la prière des humbles, et pour nous protéger, étendez sur nous le bras de votre majesté. C'est une raison que nous devrions graver dans notre cœur, mes très chers frères, comme toutes les autres, mais surtout celle-ci. Quesumus omnipotens Deus, s'il vous plaît, Dieu Tout-Puissant. Alors attention, Dieu Tout-Puissant, ça veut dire que nous demandons un miracle. Nous demandons quelque chose qui dépasse les forces et qui dépasse même ce qu'ordinairement les grâces, les grâces ordinaires nous rendent capables. Dieu Tout-Puissant, Seigneur qui pouvait tout, c'est-à-dire que nous ne pouvons rien. Qu'est-ce que nous allons nous lui demander? Vota humilium respice. Écoutez, Regardez, écoutez les prières des humbles, les vœux des humbles. Toute demande qui va contre la cupidité peut être décrite comme un vœu. Bien sûr, les auteurs qui commandent cette oraison nous disent que l'Église est ici vague, disons, c'est un terme générique, les vœux, c'est-à-dire que nous apportons chacun le nôtre. Seigneur, faites-moi plus ceci, moins cela. Et ainsi de suite, pour chacun, nous sommes tous différents, nous sommes tous décomposés de malices différents, à dosages différents. Donc du coup, nous demandons tous quelque chose à Dieu, mais tous en commun, nous demandons quelque chose, il y a un dénominateur commun, et c'est que nous le demandons contre nous. Nous ne faisons pas des vœux pour la mort de notre prochain, nous ne faisons pas des vœux pour ceci ou pour cela, qui, d'une certaine manière, relèvent du mystère du mystère de Dieu sur les hommes. Nous demandons une chose très précise que nous désirons de tout notre cœur, qui est notre vœu. Quelle est-elle, cette chose? C'est que la concupiscence soit vaincue par la plus grande quantité de charité. Voilà les vœux que nous demandons à Dieu. Les vœux des humbles. C'est-à-dire de ceux qui se haïssent eux-mêmes, de ceux qui haïssent leur moi. Le moi est haïssable, dit un auteur. Il faut que nous comprenions que dans cette oraison, nous demandons un miracle, une sorte de miracle. Nous demandons la manifestation de la toute-puissance divine, mais c'est un petit peu comme, si j'ose dire, quand on fait exploser une bombe atomique, on a intérêt à s'être construit un bon bunker assez loin, dans lequel on puisse se cacher. Parce que sinon, on va être pris avec. On demande à Dieu, rien moins que, nous allons le voir, l'extension du bras de sa majesté. Donc c'est la chose la plus puissante qui puisse exister, qui puisse se manifester dans le monde. Et il nous faut nous cacher de peur d'être détruits par ce Dieu qui va tout d'un coup se surgir. Et comment se cacher, comment, où fuir? Il faut fuir dans l'humilité. Et l'humilité consiste essentiellement dans le déni de soi, dans la haine de soi, et cette sainte haine de soi, cette sainte haine pour notre âme que nous avons, nous désirons perdre notre âme pour être avec notre Seigneur, pour la retrouver en notre Seigneur. C'est ça l'humilité. Demander les humbles, donc, ceux qui savent qu'ils n'ont aucune raison de se faire confiance et qui renoncent à toute confiance en eux-mêmes, qui se renient eux-mêmes, ils demandent à Dieu quelque chose contre un miracle de sa majesté contre la concupiscence. Et ensuite, l'Église nous fait dire « atque ad defensionem ». Et on ne dit pas « ut ». Vous vous souvenez, souvent, on voit « ut ». Eh bien, il n'y a pas « ut » ici, mais c'est « atque », c'est-à-dire « et ». Dieu Tout-Puissant, écoutez la prière des humbles, et pour nous protéger, étendez sur nous le bras de votre majesté. C'est-à-dire que tout en demeurant humble, il y a une simultanéité. L'humilité et la prière contre soi-même vont de pair avec la manifestation de la droite de la majesté divine, le doigt de Dieu dont il est parlé dans l'Évangile et par lequel notre Seigneur, qui est le Saint-Esprit, et par lequel notre Seigneur Jésus-Christ chassait les démons. Nous demandons rien moins à Dieu que de chasser de nous le démon muet qui nous empêche de le prier, qui nous empêche de confesser nos péchés, qui nous empêche de rendre témoignage à la vérité, qui nous empêche de louer Dieu. Mais ce démon muet, il fait un presque avec ce que nous sommes, en tout cas l'expérience de ce que nous sommes. Donc nous devons être humbles et demander à Dieu son aide afin que le déploiement de la droite de sa majesté puisse nous accorder ce que l'humaine nature est totalement incapable de faire et même de vouloir, puisque nul ne peut se haïr soi-même sinon sous l'influence de la grâce qui agite puissamment et efficacement en lui. C'est pour cela que nous prions des prières terribles aujourd'hui, par exemple dans le graduel. Vous avez fait retourner mes ennemis en arrière, ils trébuchent, ils périssent devant votre face. Qui est capable de prier ceci contre lui-même, mes très chers frères? Là encore, on va dire, est-ce que ce n'est pas de la témérité? Mais nous ne demandons rien pour nous ou contre nous, un petit peu comme des fois on dit « Seigneur, envoyez-moi des maux, des maladies, des choses pour que je... » Ce n'est pas une chose à prier, et surtout ne priez pas ça, mes très chers frères. Dites plutôt « Seigneur, donnez-moi, ne m'abandonnez pas, et donnez-moi d'être toujours persévérant, quelles que soient les choses que vous m'envoyez. » Alors, vous allez dire certains saints, vous êtes saints? Non, alors, vous n'êtes pas concernés. Attention, mes très chers frères. Il nous faut prier contre nous-mêmes, c'est-à-dire contre la concupiscence, contre cette chose que nous aimons tant, qui nous fait parfois hésiter entre le ciel et l'enfer. On se dit, mais finalement, dans le fond, ben, je préfère l'enfer, je préfère suivre ma propre volonté. Et après, on se dit, ben non, quand même, je suis chrétien. C'est ça, c'est cette chose infâme en nous, qui s'appelle, par allégorie, le démon, et qui n'est autre que la concupiscence, c'est-à-dire le vieil homme, le moi. Nous devons le détester et nous devons nous réjouir lorsque le Seigneur fait retourner en rien, c'est-à-dire fait fuir cet ennemi, lorsqu'il trébuche et périsse devant la face de Dieu. Ne croyez pas qu'il s'agit d'une chose malsaine par rapport à soi-même, une sorte de complexion. Ça n'a rien à voir, mes très chers frères. Tout ce qui relève des maladies des gens complexés, c'est de l'orgueil. Ils s'aiment énormément, ils ne s'aiment pas parce qu'ils aimeraient, mais tout ça c'est de l'orgueil. Nous aimons Dieu. Nos yeux sont constamment fixés sur le Seigneur. Nous trouvons nos délices dans l'accomplissement du moindre commandement de la loi de Dieu. Nous vérifions la réalité de notre charité par les bonnes œuvres que nous faisons vis-à-vis de notre prochain, qui souvent rend les choses très difficiles. C'est dans cela, mes très chers frères, que nous consiste véritablement notre vrai moi. Et tout ceci, qu'est-ce que c'est ? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour cela que saint Paul nous dit, « Mes frères, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple du Christ, qui lui aussi nous a aimés, et qui s'est livré lui-même pour nous à Dieu comme une offrande et un sacrifice d'agréable odeur. » Comment cette guerre se mène-t-elle, mes très chers frères ? En tout cas, pas par la dispersion et l'action sauvage, mais par la conformation très stricte et très exacte à la loi divine. Marchez dans la charité. Marchez dans la charité, ça ne veut pas dire « inspirez-vous de la charité, faites des choses qui pourraient être faites par des chrétiens, mais enfin, vous êtes chrétien. » Faites ce qui est digne de vous. Ne vous abaissez pas à faire les bonnes œuvres telles que, de la manière que les mécréants ou les païens, qui n'ont pas le baptême, ou s'ils ont le baptême, ils le renient. Ils font des choses uniquement par orgueil. Ils font des choses uniquement par concupiscence. Faites les choses telles que Dieu vous rend capable de les faire, c'est-à-dire en enfant de Dieu. Vous voyez, souvent, les mondains parlent de la dignité de l'homme. La dignité de l'homme, malheureusement, est très dégradée depuis la chute. Mais la dignité du chrétien, c'est tout à fait autre chose. Le chrétien n'est pas un homme comme les autres. Le chrétien est un fils de Dieu dans le Fils de Dieu. Donc, il nous faut véritablement imiter notre Père Céleste, ce qui signifie marcher dans la charité, c'est-à-dire pratiquer avec une très grande exactitude les commandements de Dieu. Et si celui qui dira que tout ceci est assez réducteur, n'a pas la moindre idée de ce qu'est l'homme et de ce pourquoi l'homme est fait. C'est plutôt quelqu'un qui est muet comme le démon, ou sous l'action du démon. Marcher dans la charité, c'est le seul moyen d'offrir ses œuvres, son âme et son corps en holocauste à Dieu, sacrifice d'agréable odeur à Dieu. C'est pour cela que saint Paul, très rapidement, nous dit que la fornication et toute impureté, toute l'avarice ne soient pas même mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Nec nominetur, c'est le fameux principe du nec nominetur. On ne parle pas d'un certain nombre de choses parmi les saints. Pourquoi ? Non pas parce qu'on se voile la face, mais parce que en parler, c'est déjà en quelque sorte être éclaboussé par elle. Lorsque vous voyez une ordure dans la rue, vous n'allez pas dire « Oh là là, ces gens qui laissent traîner leur chien partout, qui laissent faire leur chien partout, et je donne un grand coup de pied dedans. Ben, » c'est le meilleur moyen de s'en mettre plein la figure. Il faut au contraire, avec beaucoup de délicatesse, en quelque sorte, prendre une pelle, un balai, etc., et faire tomber tout ça dans le caniveau pour que, vous voyez, que ça aille plus loin, que ça parte dans les égouts. Vous voyez, avec une grande discrétion. Il nous faut faire très attention, mes très chers frères. Aujourd'hui, malheureusement, à cause de l'Internet, il y a tout et on sait tout sur tout. Et il y a des gens qui vous font des articles sur la modestie où ils vous montrent toutes sortes de mauvais exemples. Ils vous disent, regardez, ça, ce n'est pas bien. Ils vous font des vidéos, des que sais-je, des machins pour vous montrer les turpitudes, les ésotérismes cachés chez les voleurs, etc. Et puis pendant toute la vidéo où vous êtes là en train de dire « Ah là là, que les mondains sont méchants, etc. », vous n'avez que des bonnes femmes qui se trémoussent devant vos yeux. Est-ce que c'est saint ? Est-ce que c'est digne d'un saint ? Est-ce que c'est des choses qui se font parmi les saints ? Non ! Bien sûr que non, mes très chers frères. Alors vous allez dire encore une fois « Oui, mais il faut bien combattre, il faut bien lutter ». Ce n'est pas moi qui vous le dis, mes très chers frères, c'est le psaume, c'est le psalmiste, c'est Dieu lui-même. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Imprégnons-nous de l'Écriture sainte. Saturons tous les vaisseaux, tous les vases de notre intelligence, de la parole de Dieu, de la liturgie, de l'amour de Dieu, des bonnes lectures, et vous verrez que vous serez extrêmement puissants pour repousser loin de vous toutes les ordures et tous les pièges du démon. Et c'est moins vous qui les repousserez que Dieu lui-même qui s'engage à repousser, à délivrer vos pieds du filet des chasseurs. L'épître d'aujourd'hui, On aimerait qu'elle soit très mystérieuse, très obscure, pleine de ces choses difficiles dont parle saint Pierre à propos de saint Paul. En réalité, l'épître est très simple, elle n'a même pas besoin de commentaires. Je vais vous la lire, nous terminerons par ces mots. Que la fornication, toute impureté ou l'avarice ne soit pas même nommée parmi vous comme il convient à des saints, non plus que ce qui est déshonnête, les propos insensés, les paroles bouffonnes, toutes choses qui sont malséantes, c'est-à-dire qui ne conviennent pas à notre dignité, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun fornicateur, aucun impudique, aucun avare, ce qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous abuse par de vains discours. Qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie que ce sont les directeurs de conscience qui sont laxistes, qui disent non, mais c'est pas parce que vous bouffonnez, c'est pas parce que vous dites des grossièretés, c'est pas parce que vous êtes à fond dans le monde que vous ne pouvez pas aimer Dieu, que vous n'allez pas être... Que personne ne vous abuse, mes très chers frères. C'est une erreur, c'est un mensonge que de dire ça. Vous voyez? Car c'est à cause de ces vices que la colère de Dieu tombe sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Séparons-nous, mes très chers frères, autant que cela est possible. Séparons-nous, soyons saints pour le Seigneur, mis à part. Un saint, ce n'est pas celui qui peut monter sur un autel avec une petite couronne et puis faire semblant d'être parfait. Ça, c'est l'Église décide après notre mort. Le saint, c'est avant tout celui qui fuit le monde, autant que cela est possible, et qu'il le doit, et qui vit d'une vie dont les yeux sont constamment fixés vers le Seigneur, comme il convient à des saints. Que personne ne vous abuse par de vains discours, car c'est à cause de ces vices que la colère de Dieu tombe sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres. Nous savons que toutes ces choses existent. Ce n'est pas la peine d'aller regarder toutes sortes de documentaires sur les turpitudes du monde. Le monde, nous en faisons partie par notre naissance même. Nous savons très bien de quoi il s'agit. Alors, vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, et non pas comme des gens dans les ténèbres qui aimeraient bien être des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en tout ce qui est bonté, justice et vérité. Oui, mes très chers frères, ce n'est pas que l'Église ne nous demande pas une vaine piété, des dévotions à n'en plus finir, qui en fait ne nous font pas pratiquer de façon concrète la charité. C'est pour cela qu'il y a cette parole extraordinaire de notre Seigneur à cette brave femme, qui lui dit, en entendant les paroles merveilleuses que notre Seigneur disait, cette brave femme a dit « Heureux le saint qui vous a porté les mamelles qui vous ont allaité ». Alors, bienheureuse la très, très sainte Vierge Marie, louée soit la très sainte Vierge Marie, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons dire. Mais que nous dit notre Seigneur? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est la Sainte Vierge. Elle a écouté la parole de Dieu et elle l'a gardée. Elle l'a gardée tellement bien qu'elle est ce qu'elle est. Elle l'était déjà, mais elle est ce qu'elle est. Vous voyez, il y a une façon d'être pour la tradition, pour le christianisme, pour la religion, d'être même très dévot et d'oublier complètement le devoir fondamental de la charité, c'est-à-dire l'obéissance très stricte au commandement de Dieu. Et malheureusement, il y a toutes sortes de faux docteurs qui vous disent que dans la mesure où vous êtes dévot de la Sainte Vierge, vous pouvez faire n'importe quoi et puis vous aurez toujours la grâce de la conversion à la fin. Erreur, mes très chers frères, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il y a des gens auxquels Dieu donne la grâce de la conversion, mais c'est des gens qui n'ont jamais escompté. C'est-à-dire que c'est une ordure qui, à la fin de sa vie, a une illumination et il se convertit. Pourquoi? C'est pour humilier les justes qui ont passé toute leur vie laborieusement à se sanctifier. Mais il ne faut pas dire « Oh, je suis dévot, je fleuris les autels de la Sainte Vierge, et puis elle me le rendra bien à la fin. » Attention, attention, attention. Pensez à Denija qui est venue devant la mère du roi en lui disant « Obtenez-moi ceci, la Sainte Vierge, j'allais dire. » La reine lui dit « Oui, j'en parlerai au roi. » Le roi lui dit « Non. » Très Sainte Vierge Marie, ménagez-moi la grâce de la conversion, entre-temps je vis comme un possédé. Oui, 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 oui. Et le Christ dit non. Alors, n'escomptons pas la grâce finale, mes très chers frères, n'escomptons pas la grâce de conversion extraordinaire, qui existe, mais qui n'est pas pour ceux qui la demandent. Ayons les yeux fixés sur le Seigneur, ayons les yeux fixés sur le Seigneur. Mes yeux sont constamment fixés sur le Seigneur, car c'est lui qui dégage mes pieds du filet. Vers vous j'élève mon âme, Seigneur, mon Dieu, que en vous je me confie, que je ne sois pas confondu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.